Vous recherchez une formation vraiment enrichissante? Les Compagnons du Tour de France vous invitent à leur journée portes ouvertes. Avec des formateurs passionnés et des centres dans toute la France, les Compagnons du Tour de France vous proposent des parcours d'excellence dans les métiers d'art et du bâtiment pour les jeunes dès 14 ans et des formations professionnelles pour les adultes. Pour connaître toutes les dates des portes ouvertes près de chez vous, rendez-vous sur compagnonsdutourdefrance.org. Les Compagnons du Tour de France, la transmission des savoir-faire. RMC.
Vous pouvez poser cette question dans la vestiaire, si vous avez des couilles de faire ça. Parce qu'il y a des joueurs, ils sont morts.
C'est très important, la concurrence. Qui est meilleur?
Monsieur, vous êtes un con.
After Paris.
Nicolas Jamin.
Salut à toi, supporter parisien, et bienvenue dans le podcast After Paris avec cette semaine Daniel Riolo. Salut Daniel.
Bonsoir les amis.
Bonsoir Fabrice Hawkins.
Salut les gars.
Ou bonjour, hein, c'est au choix. Paris qualifié donc pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Victoire spectaculaire, 7 buts à 2 contre le Maccabi Haïfa. Quelle valeur accordée à ce succès? Plus globalement, ce PSG-là est-il en progrès? Et puis on parlera Mercato, tiens. Cette semaine, le PSG doit-il se renforcer absolument cet hiver? Si oui, ou en priorité? Vous écoutez le podcast After Paris, c'est parti. Question simple, messieurs, est-ce que vous diriez que vous avez assisté ce mardi soir à la meilleure prestation du PSG depuis le début de saison? Daniel.
Depuis le début de saison, oui. Enfin, j'avais aimé une partie du match contre Marseille, qui est quand même un adversaire un peu au-dessus. Mais oui, allez, globalement, je veux bien être dans ce camp-là. Allez, je veux bien.
Fabrice.
Bah oui, forcément, parce qu'on s'est régalé. Il y a eu des buts, des prestations exceptionnelles aussi de Lionel Messi qu'on attendait depuis un petit moment à ce niveau-là. C'est vrai qu'il est très bon depuis le début de la saison, mais là, il a été encore un cran au-dessus. Et puis, une très belle complémentarité aussi entre ces trois joueurs-là. On se demandait un petit peu ce que donnerait le retour de Neymar qui était suspendu lors du dernier match. On l'a vu, il n'y a pas de souci. Quand ils sont comme ça, ils sont parfaits.
Alors, au-delà des trois devant, on en a suffisamment parlé, bien sûr, les stats affolantes de Messi, Neymar, Mbappé, qui marquent plus de 80% des buts du PSG cette saison. Oui, dis-moi.
Fabrice a raison, Nico, quand il parle de spectacle. Enfin, oui, je pense que c'est ça qu'il voulait dire, c'est-à-dire tous les buts,
oui.
les offensives qui marquent et des beaux buts en plus, quoi. Donc, forcément, ça ajoute au jugement qu'on peut avoir sur la prestation d'ensemble. Et c'est pour ça que, je le répète, je veux bien être dans le camp de ceux qui pensent que c'est la meilleure prestation. 7 buts en Ligue des Champions. On l'avait dit dans l'after après la rencontre. J'ai dit, ok, on peut toujours dire c'est Maccabi Haïfa, c'est machin, c'est pas très fort, mais il n'y a pas beaucoup d'équipes qui, même contre les faibles, arrivent à coller 7 buts et en plus des beaux buts, avec cette impression que les trois s'entendent bien, que ça se passe la balle, que ça se fait des belles ouvertures, que ça met des belles frappes lucarnes. Non, il y a quand même beaucoup de choses très positives dans ce match, vraiment.
Alors, au-delà des trois dont on a suffisamment parlé jusqu'à présent, depuis le début de la saison, qui ont marqué quasiment tous les buts du PSG, qui vous a plu particulièrement sur ce match-là? Fabrice, je commence avec toi.
Lionel Messi. Lionel Messi, il a été exceptionnel. Après, on voyait les commentaires juste à la sortie du match en se demandant s'il continue comme ça, est-ce qu'il peut encore prendre le ballon d'or. Il en a déjà 7, on n'en est pas encore là. Mais c'est vrai que Lionel Messi a été à son niveau.
Mais qui dit ça, Fabrice, sans déconner? Il faut arrêter de lire je ne sais quel site. Il faut faire attention à ce qu'on dit.
C'était dit par Jérôme dans l'after ce mardi soir, non, Daniel.
Mais à ce niveau-là, tu ne penses pas qu'il peut...
Jérôme, il a dit ça dans l'after?
Tout à fait, il a dit... Quand il joue comme ça, on se pose la question, pourquoi pas un huitième ballon d'or?
Mais tu penses pas, toi, Daniel?
Attendez, les amis, il faut arrêter. À un moment, il faut savoir ce qu'on lit. C'est comme toi, Nico, à un moment, t'as arrêté de lire. Oui. Non, tu t'es mis à la vraie littérature.
Ans, effectivement, ouais. Oui. Ouais.
Bon, voilà.
Vas-y.
Bon, on est en octobre. Il va y avoir une Coupe du Monde. Il va y avoir la vraie Ligue des Champions, c'est-à-dire celle qui commence au printemps, avec les huitièmes, les quarts, les machins. Et il y en a qui osent parler du ballon d'or maintenant parce que Messi, il est pas mal cette année et il a mis 2 buts ou 3 buts ou je sais pas contre des pantins. Non mais arrêtez, moi je veux bien m'enthousiasmer pour la prestation du PSG. Moi c'est ça le problème avec ce club, c'est ça qui me rend ouf, c'est toutes les conneries qu'on peut entendre autour de ce club, ça me rend malade. Je veux bien m'enthousiasmer, la prestation elle est belle, mettre 7 buts en Ligue des Champions, c'est pas facile, même contre des petites équipes. Ils ont fait un bon match, Messi a l'air bien en jambes, le nouveau système me plaît, j'ai envie de parler de Fabian Ruiz, machin. Et après, ben, je suis bouche bée, les bras m'en tombent, tout ce que vous voulez, parce que certains viennent
mais oui,
pour
mais
me
Daniel.
Dire que ça mérite peut-être le ballon d'or, que ceci, que cela. Non, mais là, franchement, on arrête de parler. Moi, j'arrête de parler du PSG, le podcast non, PSG, vous allez le faire avec.
Daniel,
j'en peux plus. Mais j'en peux plus de ça, moi.
C'était anecdotique, Fabrice,
c'est
ça comme ça.
L'idée, c'est de pas dire que Lionel Messi va prendre le ballon d'or. C'est simplement qu'il en a déjà pris
7. Il faut pas parler de ceux qui disent ça.
Daniel, il en a déjà pris 7, et là, il est sur une dynamique, il est dans une forme. Où on se dit s'il continue comme ça, effectivement, il y aura la Coupe du Monde, effectivement. Mais on sait qu'il est capable. On sait qu'il est capable de réaliser ce type de saison-là. Et c'est pour ça que on peut, sur ce type de joueur-là, ne serait-ce
Si
je continue dans mon état de forme au tennis là, des deux dernières semaines, je finirai la saison 4-6. Mais en fait, j'y crois pas une seconde.
Et tu l'as déjà été 4-6 ?
C'est comme pour Messi. Non, jamais.
Eh oui,
Messi a gagné 7 fois le ballon d'or.
Pourquoi pas ? Bon, laissons le cas Messi de côté,
non,
messieurs.
Arrêtons. Franchement, c'est ce genre de truc, c'est pas possible.
Parlons de tous ceux, sauf Messi, Neymar et Mbappé sur le match de ce mardi soir, les gars. Qui retenez-vous particulièrement ? Daniel, toi, qui veux-tu mettre en valeur ?
L'homme tendance.
Fabien ?
C'est l'ex-homme de la 88e qui est devenu titulaire dans cette équipe en deux matchs. Pour ceux qui le connaissaient un petit peu, il n'y avait pas à en douter. Fabián Ruiz, c'est un très bon joueur qui est entré dans cette équipe, à qui il a fallu deux matchs pour immédiatement s'installer dans la peau d'un titulaire et dans la peau d'un homme indispensable. Peu importe la config qui sera donnée à ce milieu de terrain, est-ce qu'il jouera, alors on ne l'a pas encore essayé devant la défense, j'aimerais bien le voir au moins une fois, mais que ça joue à 3, à 2, à tout ce que vous voulez, Fabián Ruiz doit jouer dans cette équipe, c'est évident. Il est technique, il ne refuse pas le combat. Après, il va y avoir une interrogation, c'est à haute intensité face à des milieux de terrain qui envoient un peu plus d'impact. Mais ce gars-là doit être dans cette équipe titulaire, c'est sûr.
Ouais, je suis assez d'accord avec Daniel. Et ce qui est important aussi dans cette équipe et dans ce vestiaire, c'est parfois ce que pensent les autres. Les autres, c'est les joueurs. Le regard des autres à l'entraînement, en match, c'est important aussi. Et ils ont une haute estime de Fabián Ruiz. Voilà, c'est ses coéquipiers. Les trois de devant aussi l'apprécient énormément. Dans les jeux à l'entraînement, il impressionne parfois. Donc ça aussi, c'est important à souligner et à mettre en perspective.
C'est un mec qui est référencé aussi, qui est respecté.
Bien sûr. Et on le voit, il est très à l'aise.
Il est très à l'aise, une forme d'autorité également dans ses prises de balles, dans sa façon d'orienter le jeu. C'est un mec tout à fait naturellement qui est en train de s'imposer. Je rappelle son troisième match consécutif en tant que titulaire au PSG. C'est l'homme qui a le plus couru ce mardi soir face au Maccabi Haïfa. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. 11 kilomètres pour Fabián Ruiz.
En fait, le milieu de terrain du PSG, à mon sens, devrait être celui qu'on a vu contre le Maccabi Haïfa, à la condition, mais c'est une condition qui est de plus en plus difficile à remplir, c'est que Renato Sanchez ne se blesse pas, gagne en confiance, soit mis en confiance.
Attends, Daniel, alors je veux bien, mais donc tu mets Verratti derrière Renato Sanchez. Si Renato est en forme, tu mets Verratti derrière Renato Sanchez. Ce que tu me dis là,
si
tu es en train de le dire.
Si on parle d'un... Ouais, mais de toute façon, je l'ai toujours pensé. Mais le problème, c'est que c'est un peu virtuel parce que Renato Sanchez a du mal à aligner. C'est un gars qui a besoin d'être en confiance, d'être installé comme titulaire, d'être chouchouté. Et je ne sais pas si le PSG est un club dans lequel on aura le temps de faire ça. Je pense qu'au fond de lui, Galtier sait de quoi est capable Renato Sanchez. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont voulu le reprendre. Il a fait qu'une poignée de matchs à très haut niveau à Lille, malheureusement. Donc ça ne veut pas dire qu'il est réellement capable d'en faire plus. Mais le potentiel de ce gars-là, si un jour il est exploité, alors devant la défense, le PSG aura un milieu de terrain haut de gamme. Et dans ce cas-là, les trois qui étaient là hier, par leur capacité à courir, la technique et ce qu'ils peuvent proposer, oui, c'est les trois que je mets titulaire. Mais pour l'instant, non, parce que pour l'instant, c'est Verratti qui est encore devant.
Fabrice, ça n'arrivera pas, on est d'accord. Galtier qui sort Verratti.
Non, parce qu'il a un statut au Paris Saint-Germain.
Après, il peut y avoir des blessures, hein. Attention.
Oui, en cas de blessure, évidemment.
Des absents, attention.
C'est une vraie bonne alternative.
Quand Verratti est à son niveau, et surtout quand Verratti est apte, il joue, il n'y a pas de grande discussion, en tout cas dans l'esprit.
Il a un totem d'immunité aussi,
de Luis Campos, bien sûr.
Mais n'oublions pas que Verratti ne va jamais sur la fin de saison. L'année dernière, ça s'est arrêté en huitième, donc on n'a pas pu voir la suite. Mais l'année d'avant, en quart, il était blessé. L'année de la finale, il n'était pas là. C'est pas quelqu'un qui. Moi, je veux bien, je lui souhaite de faire une saison complète, mais on n'a pas pour habitude de le voir faire des saisons complètes. Les matchs, les peu de fois où le PSG est allé loin en Ligue des Champions, souvent il était absent pour diverses raisons, soit des suspensions, soit des blessures, soit Voilà, l'année dernière, n'oublions pas que la saison du PSG s'est arrêtée début mars. Hein.
Tu as raison, Daniel, mais du coup, Renato Sanchez aussi, et ça risque de poser un vrai problème au Paris Saint-Germain. Si on a et Renato Sanchez et Verratti blessés, pour le coup, dans ce milieu à 3, s'il ne reste que Vitinha et Fabio Ruiz, ça risque de poser vraiment problème, parce que Carlos Soler, c'est pas tout à fait le même... Déjà, il n'a pas les mêmes, pour moi, les mêmes qualités, et c'est pas non plus le même profil, exactement.
Tu peux avoir une solution Danilo devant la défense.
Oui. Pour le coup, même si après dans le jeu de passe notamment, c'est pas la même chose que Sanchez et Verratti.
Je préfère un autre type de milieu, ça on est d'accord.
Fabrice, qui est aussi toujours très bien informé sur l'actualité du PSG, tu connais l'entourage de Christophe Galtier également. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête là ? Quatrième match dans ce système que beaucoup ont réclamé depuis début de saison, ce 4-3-1-2 qui porte ses fruits, hein, on l'a vu. Hein, ce 3 victoires consécutives le PSG, dans la forme, c'est bien plus convaincant également. Même un Hakimi et aussi, voire plus à l'aise dans ce système-là. Il a apporté beaucoup ce mardi soir. Est-ce que ça reste encore un système, un plan B, voire par défaut? Ou est-ce que c'est devenu le système préférentiel de Galtier?
Bah, Christophe Galtier, il est pragmatique. Et encore une fois, Marquinhos est meilleur dans ce système-là. Ça permet de faire jouer Fabian Ruiz. Neymar, Kylian Mbappé et Messi sont dans des rôles qu'ils apprécient, dans lesquels ils performent. Donc Christophe Galtier, il est pragmatique. Il voit bien que ça marche beaucoup mieux dans ce 4-3-1-2 que dans le 3-4-3. Et à mon sens, sur les prochaines rencontres, il va continuer à évoluer comme ça.
Sauf que Kimpembe est de retour.
Et là, il faudra choisir. Ce sera un grand débat. D'ailleurs,
quel est votre choix, les gars? Allez-y, engagez-vous.
Ah non, mais il n'y a pas de débat. La charnière, c'est Marquinhos, Kimpembe, on n'en parle plus.
Ok, il n'y a pas de débat pour toi.
Il n'y a même pas de débat possible. Ramos, il est complètement free.
Moi, j'attends de voir. La logique voudrait que ce soit ce que vient de dire Daniel.
Parce que tu ne le vois pas assez, là.
Non, bien sûr. Mais sauf que hier, on attendait peut-être Ramos axe gauche. On l'a eu axe droit. Et c'est Kimpembe qui a remplacé Marquinhos, même si c'est vrai que Ramos revenait de suspension, donc il était un petit peu plus frais. On a voulu sans doute ménager un peu Marquinhos, mais j'attends de voir quand même Ramos sur le banc régulièrement dans les matchs qui comptent, sachant aussi le poids qu'il a dans le vestiaire, même si on sait que ce qui compte avant tout, c'est le terrain. J'attends quand même de le voir, ça.
Tu doutes? Tu penses que ça pourrait vraiment l'affecter? Tu crois qu'il a pas suffisamment de recul désormais?
Tu veux dire un truc de statut, tu veux dire?
Ouais, voilà, c'est ça. Statut, bien sûr,
c'est pas simple de le mettre. Ah non, mais là, là-dessus, Fabrice, je peux te rejoindre que ce sera pas facile, mais à un moment, il va falloir prendre des décisions. Hein.
Ah, et comme devant, comme avec les trois de devant, c'est là aussi on va voir ce que peut faire Christophe Galtier.
Pardon, mais si ça joue à quatre derrière et que le choix c'est Ramos titulaire à cause d'une question de statut et Kimpembe sur le banc, je peux t'assurer que ça foutra un bordel incroyable dans le vestiaire. Kimpembe le supportera jamais.
Je suis d'accord avec toi, et ça va faire jaser, d'autant plus que Kimpembe dans quelques temps il y aura
je crois
la
qu'il prend
prolongation.
Moins de risque à mettre Ramos sur le banc d'ailleurs.
Il y aura l'histoire de la prolongation de Kimpembe là qui va se poser dans très peu de temps, donc effectivement s'il ne joue pas, s'il n'a pas des garanties à ce
niveau-là, rappelle le contrat de Kimpembe,
ça peut encore deux ans. Donc ça peut poser problème quand même rapidement.
Bon. Plus globalement, Daniel, Fabrice, est-ce que vous voyez ce PSG progresser depuis 3-4 semaines? Est-ce que ce PSG va dans le bon sens, hein? Évidemment, on ne parle pas de février et de mars, les huitièmes de finale, c'est encore autre chose, on en est encore loin.
Ouais,
est-ce que vous voyez un effectif, même un 11 ou un 12 se constituer au Paris Saint-Germain?
Je crois que le 11, on n'en est pas loin. Les progrès, ils sont réels. Le changement de système, on savait que ça allait arriver, c'est arrivé. On est mi-fin octobre maintenant. Tout va être coupé avec la Coupe du Monde. Et je crois qu'il y a une nouvelle histoire qui démarrera en janvier. Mais je crois qu'on a plutôt avancé là. Ouais. Le PSG fait un début de saison, somme toute, assez standard. Parce que 32 points en championnat après autant de matchs, ça a dû déjà être fait 3 ou 4 fois avec Tuchel ou avec d'autres entraîneurs. Donc c'est quelque chose d'assez standard. Donc on est dans une saison normale du PSG avec, comme d'habitude, le rendez-vous fin février.
Oui, je rejoins Daniel. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une vraie montée en puissance des joueurs qu'on attend. Neymar, Kylian Mbappé, Messi, encore une fois, ils montent en puissance. Pour moi, je pense qu'il faudra surveiller avec attention les blessures. Parce qu'on en parlait, ça risque quand même d'être... handicapant pour le Paris Saint-Germain, on le voit, pas qu'au Paris Saint-Germain, il y a dans de nombreux clubs des joueurs qui sont blessés, des joueurs importants, certains sont déjà privés de la Coupe du Monde, donc ça va être un paramètre essentiel, et ensuite ça va être la gestion des uns et des autres, le mercato aussi qui sera important en hiver pour se renforcer, pourquoi pas, je crois qu'on va y revenir dans quelques instants.
Magnifique transition Fabrice, le mercato parisien. Alors, le PSG doit-il recruter? Le PSG va-t-il faire des efforts pour recruter l'hiver prochain? Fabrice, hein, tu es toujours au taquet sur les infos mercato autour du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'on est déjà en train de bosser dessus, sérieusement?
La réponse est oui. Derrière, notamment, on cherche à se renforcer, absolument. C'était déjà une volonté en fin de mercato. Luis Campos l'a dit ici à RMC, pas satisfait du mercato parce qu'ils n'ont pas réussi à faire tous les profils, notamment un défenseur qui était ciblé, qui est Milan Skriniar. C'était la priorité. Ils sont toujours dessus. Donc, il y a ce défenseur-là qui vont essayer d'aller chercher.
Mais ça coûte à peu près Skriniar maintenant, là?
Skriniar, ça coûte beaucoup moins cher. Hein. Ça
30
peut-être 60 millions d'euros sur le mercato d'été. Là, on est plus entre, en tout cas, ils sont en train d'essayer de négocier autour de 20 millions même, même si l'Inter demande un peu plus.
C'est la braderie, là.
Ah, bah oui, là, ils essayent. Le message qui est passé, c'est on voulait vous donner 60, vous avez refusé, maintenant, on va vous donner le moins possible.
C'est 20 ou rien dans 6 mois, voilà, c'est ça.
Autour de 20, peut-être que ça va se jouer à 25. Et on cherche également, alors, pour l'instant, de ce que je sais, c'est pas encore acté, mais on se demande si on va quand même, enfin, si on va pas recruter un profil en attaque supplémentaire, c'est-à-dire en plus d'Hugo Ekitike. Ça, c'est une réflexion qui est menée.
Ouf.
Sachant qu'il faut un joueur qui puisse jouer la Ligue des Champions, il faut un joueur qui accepte aussi de pas jouer énormément, parce que Kylian Mbappé, Neymar et Messi, quand ils sont sur le terrain, vous savez ce que ça donne quand ils sortent, ils sont pas forcément contents. Donc ça, c'est pas encore acté, mais peut-être aussi se renforcer devant.
Daniel, quelle est la priorité pour toi? Parce que si on fait encore venir au PSG un axial, on va les empiler. Si Galtier maintient son système, ce 4-3-1-2, ça veut dire qu'on aura Marquinhos, Kimpembe, éventuellement Skriniar, plus Ramos, il faudra faire des choix, il y aura de la casse.
Ah, honnêtement, moi je n'arrive pas à répondre à votre question là. M'interroger fin octobre, savoir si le PSG, où on a le sentiment que la saison a à peine démarré, savoir s'ils doivent se renforcer. La charnière centrale, ils l'ont. Donc tu recrutes Skriniar, si c'est pour jouer à deux, tu vas te créer des problèmes. Devant, tu peux prendre qui tu veux, il faut que l'un des trois soit blessé, sinon le mec joue pas. Je suis incapable de répondre à votre question.
C'est pour ça la question.
Est-ce que recruter, c'est pas en fait se créer des problèmes? Non, mais ça peut être ça aussi la question finalement. Est-ce que recruter, c'est pas se créer des soucis? Parce qu'effectivement, si Skriniar arrive et ils le veulent, Skriniar, clairement.
Des étivers.
S'il arrive et qu'il continue à jouer à 4 derrière, ça risque de poser quand même de gros problèmes.
Dis-moi. S'il arrive, c'est pour anticiper le départ de Kimpembe quand? Dès cet hiver?
Ou de Sergio Ramos à la fin de la saison. Ça, c'est pas non plus exclu.
Ramos, il compte pas. Ramos, il a 45 ans, il compte pas.
Ça, c'est pas le cas dans l'esprit de Christophe Galtier, je pense. Ekitike, c'est terrible. S'il faut encore un neuf, un fameux pivot que réclame tant Kylian Mbappé, qu'est-ce que devient l'un des plus gros salaires du Paris Saint-Germain?
Un des plus gros salaires. C'est exagéré.
Ce serait bien de recruter. Ce serait bien de recruter un avant-centre à qui il filerait moins d'oseille qu'à Ekitike.
À qui il fait surtout un peu plus de temps de jeu, parce que les promesses à Ekitike quand même. Il y a Bayern Munich qui était sur lui. Il y a le Real Madrid. Il y a quand même pas mal de grosses écuries.
Bah oui, mais le problème c'est qu'on le voit pas. On voit pas recruter devant, c'est un vrai casse-tête, parce qu'il faut qu'un des trois qui soit pas là pour jouer.
Non, je suis totalement d'accord.
Et quand t'es en plus un mec spécifique comme Ekitike, que t'es un vrai neuf. Ça se met en place, un jeu pour un neuf. C'est dur d'improviser un jeu qui tourne autour d'un neuf. Icardi en avait souffert également au PSG.
On lui avait promis un petit peu plus de temps de jeu, en tout cas. On lui avait promis un petit peu plus de temps de jeu. Il se rend compte qu'en allant au Bayern, par exemple, il aurait plus joué. Il aurait plus joué en allant au Bayern.
Il y a Choupo quand même, qui est en feu.
Il y a Mathis Tel qui joue plus que lui et qui est plus jeune que lui. Et du coup, Ekitike, il est plus appelé en sélection. Et forcément, il tire un peu la tronche.
Mathis Tel, deux matchs seulement, quand même.
Mais il fait des rentrées. Il joue plus que Hugo Ekitike.
Bon, voilà, vous l'avez compris. Pour Daniel, il ne faut pas recruter pour ne pas déséquilibrer ce PSG qui va plutôt
bien. Pour Daniel,
bien.
On n'en sait rien, surtout. J'en sais rien du tout. Me fais pas dire ce que j'ai pas dit.
Merci Daniel, merci Fabrice. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast.
Ciao.
After Paris, bonne semaine à tous. Bye bye.
RMC After Paris.